l'est de l'Auvergne. On a de la neige sur le massif central à partir de 1000 mètres. Deuxième zone perturbée, le nord-est du pays ce matin. Ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Toujours du soleil au bord de la Méditerranée avec beaucoup de vent.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le jeudi 25 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, 16 ans et déjà tenté par le terrorisme. Un ado projetait un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Ambition déjouée par les policiers qui l'ont interpellé chez lui en Haute-Savoie. Récit dans un instant. La grande pagaille dans les aéroports français ce jeudi avec près d'un vol sur deux supprimé en moyenne. La levée du préavis de grève des contrôleurs aériens hier ne change rien à l'affaire. Nous irons au Royaume-Uni où les migrants entrés illégalement sur le territoire britannique pourront désormais être expulsés vers le Rwanda. Faut-il une mesure similaire pour les migrants entrant illégalement sur le sol français? La réponse, oui, à 67%. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Et puis E407, E340, nom de code d'émulsifiant qui pullule dans nos assiettes. Problème, ces additifs seraient associés à certains types de diabète. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il voulait mourir en martyr pour le califat islamique. Voilà l'ambition tragique de ce gamin de 16 ans déjà radicalisé. Son projet, réaliser un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Sa cible, le quartier de la Défense. Les policiers ne lui en ont pas laissé le temps. Il a été interpellé chez ses parents à Marigny en Haute-Savoie. Antoine Bienveau.
Oui, selon le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire, il s'agit d'un adolescent de nationalité française suivi pour radicalisation islamiste. Âgé de 16 ans, il projetait de commettre un attentat suicide dans le quartier de La Défense pendant les Jeux Olympiques. Les enquêteurs ont été alertés par des messages postés sur la messagerie cryptée Telegram. Le jeune homme y affirmait vouloir se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive. Dans ces messages, il disait également vouloir mourir en martyr au nom du califat islamique. Un document manuscrit d'allégeance à l'État islamique a d'ailleurs été retrouvé par les enquêteurs lors des perquisitions. Le suspect a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer le degré d'avancement de ce projet macabre avorté et procéder à une analyse psychologique du suspect pour déterminer si oui ou non cet adolescent était bel et bien prêt à passer à l'acte.
Enquête Antoine Bienveau. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord aux obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans mort sous le coup de ses agresseurs, obsèques qui se sont déroulées dans le calme et sans incident notable. Environ 500 personnes réunies pour un ultime hommage. Quelques mots pour dire la peine et la tristesse. Près de 10 jours après le drame, les habitants ne comprennent toujours pas ce déchaînement de violence dont il a été victime. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Sur le parvis de l'église, après la cérémonie, Thierry regarde passer le cercueil de Philippe. Le regard triste, comme beaucoup de personnes dans l'assistance, il se dit désemparé face à la violence sauvage dont le jeune homme a été victime.
Et maintenant, les jeunes, c'est le couteau, c'est le machin, c'est le truc. Pour oui, pour non, on tue les gens, on les massacre. Voilà quoi. Moi, je suis outré de voir toute cette violence-là.
Alors, quelle réponse apporter à la dérive de certains adolescents? L'éducation, la responsabilisation des parents. Et pourquoi ne pas commencer par l'instauration d'un couvre-feu pour mineurs, suggèrent Thomas et Jimmy, deux pères de famille.
Ça serait une loi utile. À 3 heures, il n'y a plus de mineurs dans la rue. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement il fait bouger les choses.
À une certaine heure, les enfants, c'est pour dormir la nuit, c'est pas pour sortir. Hein. Tout seul comme ça dans la rue, qu'est-ce qu'ils font quoi? Faut qu'on règle ça.
Et chez ses habitants, l'émotion laisse rapidement place à la colère, avec, comme pour Caroline, l'attente d'une réponse ferme de la justice.
Et j'espère que la justice va être très dure avec ces jeunes et qu'ils soient jugés comme des adultes et pas comme des enfants.
Les signes de la tension qui règne encore en ville, le maire Martial Beillard a renoncé hier à se rendre aux obsèques, ayant été la cible de menaces de mort. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et en ce qui concerne l'enquête, un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Devant les enquêteurs, les trois adolescents ont affirmé qu'ils se seraient peut-être trompés de cible.
La décision britannique d'expulser les migrants illégaux vers le Rwanda provoque une avalanche de réactions.
Alors on en rappelle les termes. Les étrangers en situation irrégulière seront expulsés vers le Rwanda. Kigali percevra une forte compensation financière en échange. Le Conseil européen appelle le Royaume-Uni à revenir sur cette loi et les Français, qu'en pensent-ils? Sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Deux tiers des Français veulent la même chose, Alexis de la Fontaine.
Expulser les migrants illégaux vers un pays tiers, c'est une mesure largement soutenue par les Français. 9 sympathisants de droite sur 10 y sont favorables, un chiffre qui grimpe jusqu'à 94% au Rassemblement National. Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, ils sont deux tiers à réclamer cette solution d'urgence pour stopper l'immigration illégale. Même au sein de la gauche la plus radicale, cette idée recueille 45% d'approbation, alors que la France Insoumise et autres ont toujours milité pour l'ouverture des frontières. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux vagues migratoires à répétition. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un léger décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent le renvoi des migrants illégaux.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Un jeudi noir dans le ciel français, malgré la levée du préavis des contrôleurs aériens.
Et 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée d'Orly. Près d'1 sur 3 pour Marseille, du jamais vu depuis une vingtaine d'années, selon un professionnel du secteur. Quelques exemples seulement de la pagaille qui s'annonce aujourd'hui malgré un accord arraché in extremis entre les syndicats et le ministère des Transports.
7h05 sur Europe 1, l'actualité à l'étranger à présent, c'est aussi ce regain de tension à la frontière entre le Liban et Israël.
L'État hébreu annonce une offensive sur 40 positions du Hezbollah libanais, mouvement proche et allié du Hamas. Pilonnage massif opéré par l'aviation et l'artillerie israélienne. Israël qui maintient son objectif principal, l'offensive sur la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Aucun espoir de trêve à ce stade.
Et le conflit s'exporte chaque jour un peu plus en France et aux États-Unis.
On l'a vu avec les multiples manifestations d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Nouveau rassemblement hier soir. Manifestation aussi dans les facultés américaines, notamment à l'université de Columbia. Viva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Campement installé à l'entrée et les étudiants juifs pris à partie. De quoi faire réagir jusqu'au sommet de l'État.
Oui, le Premier ministre israélien en personne est monté au créneau dans une vidéo publiée sur X.
Des hordes antisémites ont pris le contrôle des grandes universités. Elles demandent la destruction d'Israël et attaquent les étudiants juifs. Cela rappelle les universités allemandes des années 30. Il faut arrêter cela et les condamner sans équivoque.
Et comme en écho à cette vision pessimiste, à Columbia, les cours sont désormais en ligne car l'administration estime ne plus pouvoir assurer la sécurité, notamment des étudiants juifs. Alors, même avant l'intervention de Benjamin Netanyahou, Joe Biden avait bien condamné ces débordements, mais il continue de se réfugier derrière le premier amendement par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Le président considère que les débats sur les campus où l'on peut s'exprimer librement et sans discrimination sont importants. Mais les manifestations doivent être paisibles.
Une manière de ménager la chèvre et le chou. Le président américain est viscéralement attaché à Israël, mais il ne veut pas non plus s'aliéner une partie de son électorat. Une position difficilement tenable et qui pourrait lui coûter très cher en novembre prochain.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Ah, de l'intérêt de lire les étiquettes au supermarché sur les produits que vous mettez dans votre panier. Ceux dont l'étiquette affiche un E, attention, ils ne sont pas forcément vos amis. E, ça veut dire émulsifiant.
Et des additifs étudiés par l'INSERM et l'INRAE, 104 000 personnes testées. Enquête publiée dans la revue The Lancet, plus on en consomme, plus on risque de développer un diabète, Yasmine Akatou.
Oui, les additifs E406, E407, E340 par exemple, vous pouvez les retrouver dans les rillettes de thon Sopiquet, les yaourts hyperprotéinés iPro ou encore les plats préparés du géant Weight Watchers. Ce sont des émulsifiants, des additifs qui servent à améliorer la texture des aliments, à mélanger le gras et l'eau par exemple. Les fabricants pourraient donc se passer de ces ingrédients superflus qui, pour certains, augmenteraient de 15% le risque de développer du diabète de type 2. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM et coordinatrice de l'étude.
D'après les études expérimentales, une perturbation du microbiote intestinal a été démontrée avec certains émulsifiants. Perturbation du microbiote veut dire potentiellement une inflammation chronique, inflammation qui est retrouvée souvent comme mécanisme de base qui fait le lit finalement de maladies telles le diabète ou maladies cardiovasculaires.
Ces additifs seraient aussi associés à une augmentation du risque de cancer. Alors pour les éviter, la chercheuse recommande tout simplement de se tourner vers des produits bruts et de limiter la consommation des aliments transformés.
Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Allez, le football, 3 matchs en retard pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG, large vainqueur de Lorient 4-1, devra attendre encore un peu pour le sacre puisque Monaco a également gagné face à Lille 1-0. Match nul entre Marseille et Nice, 2-2.
Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
On va parler du CETU ce matin, le CETU, le compte épargne-temps universel, c'est-à-dire dire comme celui que vous avez peut-être dans votre entreprise, mais portable. Comme ça, si vous changez d'employeur, les syndicats se sont mis d'accord. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie française? On en parlera avec Nicolas Bouzou. Juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin, Olivia Morel, elle est la porte-parole de la déclaration de Casablanca qui milite pour l'abolition de la GPA. La GPA qui vient d'être classée dans la catégorie des actes de traite des êtres humains par le Parlement européen. Hein, tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Bonjour. Vous connaissez le dicton? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
À tous ceux qui aiment les fraises nature et à ceux qui les préfèrent avec du sucre, un filet de jus de citron, quelques feuilles de menthe et beaucoup de chantilly.
Bah quoi ? Oui, j'aime vivre et alors ? On a quand même le droit de se faire plaisir de temps en temps, non ?
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 500 grammes de fraises rondes d'origine France à 2,69€ seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Soit 5,38€ le kilo, catégorie...
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la militante anti-GPA, Olivia Morel.
Bonjour Olivia Morel.
Mais bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Le Parlement européen a voté hier de manière définitive une révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La liste des eurocrimes s'enrichit après cette révision, puisque désormais il figure aux côtés de l'esclavage ou de l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, l'adoption illégale et la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, la pratique des mères porteuses. Voilà. C'est une victoire pour vous, Olivia Morel, qui militait pour l'abolition de la GPA.
Oui, c'est une victoire. On est vraiment très contents. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le texte final reste complexe dans sa formulation. Hein. On parle de gestation pour autrui à des fins d'exploitation reproductive. Évidemment, c'est pas ce qu'on voulait à la base, et je pense que ce n'est pas ce que François-Xavier Bellamy, qui a porté quand même ce texte, voulait à la base. Mais la complexité de la formule n'autorise pas pour autant une espèce de distinction entre les cas de gestation pour autrui qui seraient par exemple légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Donc on est très très content aujourd'hui.
Oui.
C'est une grande victoire et c'est un pas en avant vers l'abolition universelle celle de la gestation pour autrui.
Alors justement, voilà. Alors ce qui est intéressant, ce sont les mots qui sont employés dans le texte. Vous vous dites, c'est pas la GPA en soi qui est considérée comme de la traite d'êtres humains, c'est l'exploitation de la GPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette subtilité ?
Alors c'est la gestation pour autrui quand c'est l'exploitation de la gestation pour autrui. Après, libre à chacun d'interpréter ça comme il le veut. Mmh. En tout cas, au tout début, quand les amendements avaient été proposés, François-Xavier Bellamy, au tout début, avait proposé la gestation pour autrui, tout simplement. Ensuite, il y a eu plusieurs amendements mettant la gestation pour autrui commerciale. Donc, ça a été le fruit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations. Ça a été très compliqué, je sais, pour le parti du PPE, pour ECR aussi, hein, pour aussi les deux rapporteurs de The Left de l'Europe.
Oui, parce que ce qu'il faut dire,
ça a été très, très compliqué.
Ce qu'il faut dire, Olivia Morel, c'est que le vote a été sans ambiguïté. On a 563 voix pour, 7 contre, 17
absolument
abstentions. Et parmi les soutiens du texte, on voit que c'est très bien distribué entre tous les groupes politiques de gauche comme de droite. Hein.
Parce que ce n'est pas une affaire de gauche et de droite. C'est bien ça qui est incroyable aujourd'hui. C'est que ça va au-delà de ça. On parle de dignité humaine. Et quand on parle de dignité humaine, il ne devrait pas y avoir de sous ces clivages droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche-centre. Non, on doit tous se réunir autour de la table et parler de gestation pour autrui. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement la dignité humaine. Et elle est mise à mal à cause de la gestation pour autrui, pour nos femmes et pour nos enfants.
Alors, il faut raconter votre histoire aux auditeurs d'Europe 1, Olivia Morel, parce que vous êtes née de GPA. J'ai dit tout à l'heure que vous saviez, oui, de quoi vous parliez. Vous êtes née, vous l'avez découvert assez tardivement d'ailleurs dans votre existence, en 1991, à Louisville.
Oui.
Je vous vieillis pas, non. À Louisville.
Non, dans... non, ça suffit. Hein.
Voilà. Donc voilà, née dans le Kentucky. Et oui, vous racontez, vous allez nous l'expliquer, que finalement, vous aviez une souffrance en vous que vous ne vous expliquiez pas.
Non, c'est vrai que toute ma vie, alors je ne l'ai pas su, c'est vrai que mes parents à moi ont pris le parti de ne pas me le dire quand je suis arrivée ici sur Terre. Je l'ai découvert par moi-même plus tard dans mon existence, mais il y a toujours eu un décalage entre mes parents et moi. Je n'appartenais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas, je ressemblais pas à ma mère, j'avais pas de photo de moi à la naissance. Bref, j'avais plein d'indices qui me pointaient vers la direction soit de l'adoption, soit de la gestation pour autrui. Et c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé la gestation pour autrui. Et c'est de là où tout s'est encliqué. Puis ensuite, j'ai fait un test ADN qui m'a remonté vers ma cousine, mes demi-frères, demi-sœurs et ma mère biologique, ma mère porteuse.
Mais que vous ont dit vos parents quand vous avez découvert que vous étiez née de GPA pour expliquer d'avoir eu recours à une mère porteuse et surtout de ne pas vous l'avoir dit, Olivia Morel?
Oui, alors ils me l'ont pas dit, je pense, parce que ils savaient pas comment me le dire. Ils avaient une vie parfaite, ils avaient une vie avec un nouvel enfant, ils avaient de l'argent, ils étaient heureux, donc ils savaient pas trop comment l'amener, et je leur en veux pas du tout, mais absolument pas. Ce n'est pas le mensonge, le problème, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui. Et c'est que des filles d'ailleurs, toutes ces jeunes filles, on l'ont su depuis la naissance et ont souffert autant que moi.
C'est vrai.
Donc ce n'est pas le mensonge, oui, absolument. Et ce n'est pas le mensonge qui a causé mes problèmes, c'est vraiment l'arrachement à ma mère à la naissance qui a causé tous les troubles. C'est ce syndrome de l'abandon, c'est ce problème d'identité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
Et comment vous l'expliquez, pardonnez-moi Olivia Morel, parce qu'il y a quelque chose qui peut-être échappe à l'entendement. Comment vous expliquez d'avoir eu l'intuition de cet arrachement, de cet abandon, quelque chose de sans le savoir, vous le sentiez, ça défie un peu l'entendement.
Oui, ça, c'est sûr, mais c'est à l'intérieur, c'est un instinct, c'est instinctif. On n'est pas bête en étant enfant, on voit les choses autour de nous, on voit qu'il y a un décalage avec notre... Moi, je voyais qu'il y avait un décalage avec ma mère, je voyais qu'elle était beaucoup plus âgée que la normale. Voilà, on a plein de signaux qui viennent de l'extérieur, on le sent, on le ressent. On ressent aussi qu'on n'est peut-être pas à sa place, un peu comme les enfants adoptés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des enfants adoptés qui sont très heureux, hein. Attendez, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés qui souffrent beaucoup du fait qu'ils ont été adoptés. Et moi, c'était exactement la même chose. J'ai pu échanger d'ailleurs avec des enfants qui ont été adoptés et nos ressentis sont quasiment les mêmes.
Ouais, mais ça fait beaucoup réfléchir.
Ça s'explique.
Ça fait réfléchir sur le mystère d'ailleurs du lien entre la mère et son enfant. Alors, je voudrais vous faire réagir également, Olivia Morel, sur cette polémique qui est née hier autour de Marion Maréchal, donc la tête de liste Reconquête pour les élections européennes. Elle a répondu au message du styliste Jacquemus et de son compagnon qui annonçait sur les réseaux sociaux la naissance de leurs deux premiers enfants. Marion Maréchal a simplement demandé « Mais où est la mère ?» Où est la mère? Et alors, ça lui a valu des accusations violentes, d'homophobie, voilà, notamment de l'ancien ministre Clément Beaune, qui ne fait pas mystère, lui, d'ailleurs, de son homosexualité. Comment vous regardez cette polémique?
Alors, je pense que Marion Maréchal n'a pas voulu faire une polémique homophobe contre Jacquemus et son mari. Je pense qu'elle a posé une question qui est réelle, où est la mère? Et ça en va pour les parents hétérosexuels comme les parents homosexuels. C'est vrai, où est la maman? On enlève la maman, on arrache la maman, on efface la maman dans la gestation pour autrui. On arrache un enfant à sa mère. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Peu importe que Jacquemus soit homosexuel ou non, si ça avait été un couple hétérosexuel, on aurait crié au scandale.
Mais je rappelle que la GPA est illégale en France, mais ça donne l'impression qu'elle est inattaquable aussi. Cette polémique.
Évidemment, et je crois qu'elle l'est, elle l'est. Alors, on croit qu'il y a une espèce de fatalité, parce qu'on a légalisé. Moi, je suis pour hein, le mariage homosexuel. Donc, on a l'impression que parce qu'on a légalisé le mariage homosexuel, la PMA, que la gestation pour autrui s'inscrit un petit peu dans l'histoire. On est obligé d'aller vers ça, on tend vers ça. Mais non, j'aimerais vraiment le répéter. Se dire que c'est une fatalité. On va pas y arriver. Je pense pas qu'en France ça va venir. Je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui la France a encore cette envie de respecter la dignité de l'humain, de la femme, des enfants, et je pense que ça n'arrivera jamais en France grâce à cette profonde reconnaissance des droits de l'homme en France.
Merci beaucoup de votre témoignage, votre prise de parole ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Olivia Morel, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la déclaration de Casablanca qui milite donc pour l'abolition de la GPA. Bonne journée à vous.
Il est 7h19 sur Europe 1, bon réveil.
7h, 9h, Europe 1 matin.
L'édito écho.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Alors Nicolas, le sais-tu, le compte épargne-temps universel va voir le jour. Une poignée de syndicats sont parvenus à s'entendre au début de la semaine. Alors pour commencer, peut-être expliquez-nous, c'est quoi le sais-tu ?
Ouais, c'est une vieille revendication de la CFDT que le président Macron avait mis dans son programme de 2022 pour faire plaisir aux syndicats, qui d'ailleurs pourtant on n'a pas hésité à le lâcher pendant la réforme des retraites, comme quoi. Alors depuis les 35 heures, les salariés de certaines entreprises, celles qu'ils veulent, ont droit à un CET, un compte épargne-temps. L'idée, c'est de pouvoir transformer en argent des RTT ou des congés qui ne sont pas pris, ou alors de les épargner pour les prendre plus tard. Le CETU vise à rendre obligatoire ce dispositif pour tout le monde, et surtout le rendre transférable entre les entreprises. Ça veut dire que si vous accumulez des congés, si vous changez d'entreprise, vous pourrez les garder. Alors, c'est simple en théorie, c'est très compliqué en pratique. Ça veut dire qu'un jeune qui épargne une heure de travail à 20 euros en 2024 pourra donc se la faire payer dans 30 ans par l'entreprise dans laquelle il travaillera. L'accord a été signé en effet par les syndicats de salariés, il sera donc dans la loi sans doute à l'automne.
Mais c'est très à l'avantage des salariés, le sais-tu Nicolas.
Ouais, mais enfin l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors je vous fais grâce de la mise en œuvre pratique, parce qu'il faudrait y consacrer toute la matinale, mais c'est vraiment un enfer pour les entreprises, mais c'est aussi un enfer financier, parce que ce dispositif serait universel, il s'appliquerait donc à toutes les entreprises, y compris les toutes petites. Pour que ça marche, les entreprises devront verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme qui correspond au congé, au RTT, aux primes stockées par le salarié depuis qu'il travaille. Ce sont donc des sommes absolument colossales, qui vont mobiliser la trésorerie des PME notamment, et qui n'iront ni en investissement ni en salaire.
Donc, c'est une complexité supplémentaire pour les entreprises, alors qu'on parle de simplification en ce moment beaucoup, Nicolas.
C'est exactement ça, c'est bien le problème, une incohérence de plus. Alors Bercy est conscient du sujet et souligne que c'est une promesse présidentielle, donc on ne peut rien y faire. Mais enfin, la réalité est univoque. Simplifier d'un côté et compliquer de l'autre, ça s'appelle en fait compliqué. Voilà qui risque de gâcher le bon travail entrepris par Bruno Le Maire sur la simplification des normes. Franchement, je vais vous dire, on a l'impression d'être revenu au début du quinquennat de François Hollande.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. Il est 7h22.
Europe 1.
Sur Europe 1, vous avez rendez-vous l'actualité tous les soirs à 18h avec Laurence Ferrari, Punchline, pour suivre tous les dossiers de la journée.
Oui, une heure d'information de 18h à 20h sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari et ses chroniqueurs qui débattent, qui analysent et qui prennent le temps de revivre l'actualité de la journée. 18h, 19h, Punchline sur Europe 1 et CNews.
Bonne journée à vous à 7h22. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar sur Europe 1.
Un adolescent de 16 ans fiché interpellé chez ses parents en Haute-Savoie. Il projetait un attentat à Paris en plein Jeux Olympiques pour, dit-il, mourir en martyr au nom du califat islamique. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Faut-il faire comme le Royaume-Uni et expulser les immigrés illégaux vers un pays tiers ? 67% des Français disent oui. Résultat d'un sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Un petit pas vers l'abolition de la gestation pour autrui en Europe. Bruxelles inclut l'exploitation de la GPA dans sa directive de lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, comme un moulin sans ailes, le moulin rouge, emblème géant du célèbre cabaret parisien, a perdu ses ailes cette nuit. Elles se sont brutalement décrochées pour une raison encore inconnue. Aucun blessé selon les sapeurs-pompiers.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1.
Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 25 avril 2001 sortait au cinéma un film qui allait devenir un phénomène lors d'Autriche, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, signé Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou dans le rôle principal.
Oui, l'histoire de cette serveuse introvertie et fantasque qui décide de semer discrètement le bonheur autour d'elle en réparant la vie des gens sans qu'ils le sachent. Cette histoire a vite emballé le public.
C'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Ça doit être mon ange gardien, c'est pas possible autrement.
Et surtout, Amélie Poulain, avec ses cheveux noirs au carré et son air malicieux, va agir de manière anonyme. C'est ce qui a plu au réalisateur Jean-Pierre Jeunet, ici sur Europe 1 au moment de la sortie du film.
Elle fait ça de façon complètement gratuite, sans rien réclamer en échange. C'est ça qui est troublant, je trouve. Ouais. Alors évidemment, elle va être récompensée à la fin, parce que évidemment, on est au cinéma, c'est l'industrie du rêve.
Le film va faire plus de 8 millions d'entrées au cinéma. Jean-Pierre Jeunet est tombé des nues.
Mais là, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Visiblement, on a touché quelque chose chez chacun, on ne sait pas trop quoi, mais c'est peut-être bien de ne pas trop chercher à comprendre.
Ouais, c'est vrai.
C'est extraordinaire.
Pour incarner Amélie Poulain, Audrey Tautou a fait l'unanimité lors du casting, qui est pourtant une épreuve pour elle à chaque fois, comme elle le raconte au micro de Bruno Kras sur Europe 1 en 2001.
Rien n'est jamais gagné, quoi.
C'est dur un casting ?
Ah bah oui, c'est difficile. Moi j'en ai raté plein aussi. Hein.
C'est vrai ?
Ah bah oui. On se dit qu'il faut absolument plaire, correspondre au rôle tout de suite quand on va rentrer dans la pièce. Donc déjà, c'est difficile d'être naturel et spontané, parce que comme on en demande, les rapports sont pas forcément équilibrés.
Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours. Hein.
Les temps sont durs pour les rêveurs.
Le film devient donc un phénomène au point que cette jeune fille qui s'appelle vraiment dans la vie Amélie Poulain, qui est étudiante à Lille, a vu à l'époque sa vie changer.
Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école, j'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin vraiment.
Parce que dans le film, il y a une histoire de photomaton.
Ouais, voilà.
Alors le film, vous l'avez vu combien de fois ?
3 fois.
Mais moi, à 30 ans, on passait derrière un zinc. J'en connais un rayon, question coup de foudre.
Et depuis 20 ans, les touristes étrangers veulent aussi, lorsqu'ils visitent Paris et Montmartre, voir le café Les Deux Moulins, où a été tournée une partie du film, et où on sert désormais le goûter d'Amélie, café, framboise fraîche et crème brûlée, le dessert adoré d'Amélie Poulain.
Merci, Lord d'Autriche, et l'heure de jouer avec Europe 1 et Le Jour où.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous envoie en croisière avec CroisiEurope, un magnifique cadeau. C'est la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe qui va vous faire vivre cette semaine inoubliable. Vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne et de la Dordogne à la découverte des trésors vinicoles du Sud-Ouest. Blaye, Libourne, Saint-Émilion, avec modération effectivement. Tout est compris à bord, hein. Une cuisine raffinée, des boissons, les animations et les visites guidées, les excursions à terre. Europe 1 s'occupe de tout pour vous et vous pouvez découvrir votre futur croisière sur croisiereurope.com.
Voici la question du jour. Qui est le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain ? Est-ce Jean-Pierre Jeunet ou bien Luc Besson ?
Pour tenter votre chance, ce matin, c'est simple, vous envoyez croisière au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS, vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu demain. On ne traîne pas. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Jérôme Guedj sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député socialiste de l'Essonne face à Sonia Mabrouk, rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
7h, 9h,
Europe 1 Matin. Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Je vous raconte une date restée dans l'histoire, le 25 avril 1974, il y a 50 ans jour pour jour, lorsqu'une insurrection militaire a mis fin au régime autoritaire initié par Salazar. La véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Tic-tac, 4 jours exceptionnels vous attendent chez Ixina. Durant ces portes ouvertes, Ixina vous offre non pas 150, mais 200 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Pour en profiter, rendez-vous en magasin avant le 28 avril. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr.
Mmh.
c'est si bon.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En onglet.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si
bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Anissa, la météo à 7h28, on a un temps agité sur le sud-ouest et le nord-est.
Oui, entre les Pyrénées et l'Auvergne, en passant par toute l'Occitanie, c'est très pluvieux dès ce matin. Des averses qui vont se généraliser tout au long de la journée jusque sur l'ouest de l'Auvergne, avec de la neige sur le massif central. Deuxième zone pluvieuse aujourd'hui. Alors c'est du côté du nord-est, entre la Champagne-Ardenne et le nord des Alpes. On a encore des averses fréquentes et des nuages tout au long de la matinée, avec de la neige sur les Vosges à partir de 600 mètres. Ailleurs, ciel partagé entre nuages et éclaircies, sauf au bord de la Méditerranée, où le soleil est assez radieux, mais toujours avec pas mal de vent. 0 degré à Charleville-Mézières ce matin, on a plus de gelée, 6 à Paris, 12 à Bastia, et cet après-midi, comptez 10 à 19 degrés, donc là aussi que des températures au-dessus de 10 degrés, il y a un léger redout, 10 à Belfort, 13 à Brest et Saint-Étienne, 14 à Paris, 16 à Marseille, Grenoble et Bordeaux, et 19 pour Nîmes.
Quelle tendance pour ce week-end ?
Vous avez des bottes ? Vous avez un parapluie ?
Oui, j'ai tout.
Vous avez un imper ?
Absolument. Ouais,
vous êtes équipé pour le week-end. Ça va être un week-end assez...
Chasse aux escargots.
Oui, ouais, assez orageux même, avec pas mal de pluie partout. On aura l'occasion d'en reparler. Il va falloir attention du côté des Cévennes. On attend pas mal de pluie samedi.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Nous sommes le jeudi 25 avril à la une ce matin. Les femmes en tribune et un blason qui fait clairement référence à l'islam. Le club de football du 7 olympique dans l'Hérault, sanctionné par l'État qui ne veut plus financer ce qu'il assimile à des manquements graves à la laïcité. Dans l'actualité ce matin également, des appartements transformés en abattoirs illégaux. Les préfets appelés à lutter dès maintenant contre les sacrifices clandestins de moutons en prévision de l'Aïd qui aura lieu courant juin. Finalement, très peu de grévistes dans les aéroports ce jeudi, mais très peu d'avions également. On va vous expliquer pourquoi. Et puis nous parlerons des Jeux Olympiques dans le viseur de la propagande russe avec de faux reportages en pagaille sur les réseaux sociaux. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Hors de question d'utiliser le sport pour promouvoir la religion musulmane. L'État vient de sanctionner le club de 7 pour pratique communautaire. En cause, un logo plus qu'ambigu arboré pendant des années et le choix délibéré d'empêcher la création d'une section féminine. Sur place, c'est le choc et l'incompréhension. Reportage Europe 1 signé Charles L'Huillier.
Ces footballeurs musulmans ont l'habitude de s'entraîner sur un terrain municipal qu'ils partagent avec d'autres clubs et donc d'autres joueurs abasourdis.
Mélanger la religion avec le sport, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe.
J'apprends des choses quand même qui me choquent un peu. Nous, on n'est pas du tout dans le communautarisme où on ne veut pas de femmes, pas du tout là-dedans.
Il y a eu en effet refus délibéré d'ouvrir une section féminine. Il y a aussi ce mystérieux logo remplacé Manu Militari en juin dernier suite à un contrôle. Et cela interroge Hervé Marquez, élu au sport à la ville de Sète.
C'est un croissant de lune, donc. Nous avons décidé de suivre les motivations du préfet à la lettre. Donc, défaut de neutralité, du fait d'un signe emblématique de la religion musulmane pour le logo du club. Je crois que ces choses sont claires.
La ville va donc priver le club de ses 8000 euros de subventions annuelles en plus de ses terrains municipaux.
Le contrat que nous avions pris avec eux, il y a le contrat d'engagement républicain et la charte de la laïcité. Et aujourd'hui, le contrat de confiance est rompu. La laïcité n'y est plus.
Le club a d'ores et déjà prévu de faire appel et refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique. À 7, Charles L'Huillier, Europe.
Et dans ce cas, cette fois-ci, on est loin du proxénétisme, mais bien dans une affaire terroriste en Haute-Savoie où un adolescent a été placé en garde à vue. Il projetait de commettre un attentat au nom de l'État islamique lors des Jeux Olympiques. Le jeune de 16 ans était suivi par les renseignements pour sa radicalisation. Une enquête est ouverte.
Cette information, Europe 1, à présent, l'exécutif donne ses consignes pour contrer les abattages illégaux de moutons lors de l'Aïd el-Kébir, programmé mi-juin.
Cette grande fête musulmane, vous l'avez dit, à la mi-juin, lors de laquelle seront égorgés, selon un rituel religieux, environ 100 000 moutons. Une demande très forte, en très peu de temps, qui amène des dérives. Tout un circuit parallèle se met en place et les préfets sont appelés à prendre des mesures, William Molinier.
Une quarantaine de moutons agglutinés dans un HLM de Nice, des carcasses retrouvées sur la voie publique, des bêtes dans des boxes de garage. Ces scènes se sont multipliées l'année dernière à l'approche de l'Aïd el-Kébir. L'agneau, tourné vers la Mecque, doit être saigné à la gorge et vidé de son sang. À l'approche de cette fête très importante dans le calendrier musulman, les abattoirs légaux sont rapidement saturés, les prix s'envolent et des circuits parallèles se développent. Alors pour débusquer les structures clandestines, Gérald Darmanin a demandé la semaine dernière au préfet de s'organiser bien en amont. Dans un télégramme qu'Europe 1 s'est procuré, il recommande notamment de prévoir des fourrières temporaires pour y stocker les bêtes illégales et de multiplier les contrôles sur les sites d'approvisionnement. C'est devenu quasiment impossible d'aller dans une cité quand le sacrifice a commencé, concède un policier. Trop de tension, le risque d'émeute y est trop fort. Tout se joue donc dans les semaines précédentes. Les bêtes saisies sont remises à la Fondation Brigitte Bardot. Selon l'Association de défense des animaux, 300 moutons ont ainsi été sauvés l'année dernière de l'égorgement sauvage, dont la moitié en Île-de-France.
William Molinier pour Europe 1. La politique à présent, et on l'appelle Sorbonne 2. Le discours que prononcera Emmanuel Macron dans le grand amphithéâtre de l'université parisienne. Comme le premier, en 2017, il sera largement consacré à l'Europe en pleine campagne des européennes. Timing opportun donc pour le président de la République. Timing beaucoup plus problématique en ce qui concerne la grève des contrôleurs aériens. Le principal syndicat a bien levé son préavis hier. Oui, mais trop tard pour éviter une cascade d'annulations de vol aujourd'hui, Aurélien Fleureau.
Oui, des dizaines de milliers de passagers ne pourront pas prendre leur avion aujourd'hui. La Direction Générale de l'Aviation Civile a pu actualiser ses demandes auprès des compagnies aériennes. Et par exemple, à Orly, rien ne change. 3 vols annulés sur 4. En revanche, à Roissy-Charles de Gaulle, Air France a réussi à sauver quelques vols. Mais 55% des trajets seront supprimés. Ce sera un peu mieux dans les autres aéroports du pays. 45% du trafic assuré en moyenne, mais seulement un tiers à Marseille. Provence. Si les détails n'ont pas entièrement filtré, le ministère des Transports a salué un accord gagnant-gagnant. Plus de productivité, de sécurité et moins de retard, c'est la promesse. Et en contrepartie, les syndicats ont obtenu gain de cause sur plusieurs de leurs revendications en termes de salaire, de jours de récupération et probablement un point d'indice rehaussé en fin de carrière, suffisant pour lever le préavis pour le pont de l'Ascension et peut-être commencer pour de bon la trêve olympique.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Bonne nouvelle, ça, c'est tout de même que la menace d'une grève lors des ponts du mois de mai est écartée pour les contrôleurs aériens. Dans l'actualité également, faut-il prendre exemple sur l'accord Royaume-Uni-Rwanda, c'est-à-dire faut-il une loi en France pour expulser plus facilement, plus efficacement les migrants illégaux vers un pays tiers? Vous dites oui à 67% ce matin. C'est le résultat du sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h35.
Faire du profit avec la gestation pour autrui, le Parlement européen l'assimile cette pratique désormais à du trafic d'êtres humains.
Une directive très largement votée par les eurodéputés en début de semaine qui ouvre la voie à des sanctions pénales contre certaines pratiques de mères porteuses et une directive que l'obstétricien René Friedman estime cohérente.
Ça correspond à la réalité. Il y a des pays qui avaient reconnu la GPA qui sont en train de réfléchir à faire marche arrière. C'est une bonne chose. Il y a des courants de pensée qui regardent que le bénéfice attendu pour les couples en demande. Quand on voit ce qui se passe avec des femmes porteuses au Vietnam, qui sont au Laos, dans des situations économiques pour la plupart redoutables, on comprend bien qu'on est dans une forme d'esclavage, oui, effectivement. Et une femme qui est enceinte, par exemple, après un don d'ovocyte, on lui dit que c'est elle la mère, même si c'est un ovocyte d'une autre femme, parce qu'elle l'a porté, elle l'a échangé avec lui et qu'elle va l'élever. On peut pas avoir un discours contradictoire en disant « mais vous, vous allez porter un enfant, vous allez vous en séparer parce que vous avez signé un contrat ». C'est ça la critique de l'esclavage, c'est que c'est des contrats qui sont redoutables.
L'obstétricien René Friedman au micro européen de Mayalène Trémollet. À l'étranger, l'aide militaire américaine sera en chemin pour l'Ukraine dans les prochaines heures. C'est ce qu'annonce Joe Biden après l'approbation définitive par le Congrès américain de l'aide à Kiev. 61 milliards de dollars discutés, âprement débattus durant des mois aux États-Unis. Le président américain qui juge par ailleurs possible des avancées prochaines russes sur le front ukrainien.
Et la Russie qui mène également une guerre de l'information contre la France et contre les Jeux Olympiques.
Les faux reportages français sur les JO se multiplient sur les réseaux sociaux. Des
Carrefour.
Quand vous me dites « c'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose ».
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46 € le kilo, détail sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Fausse information en sous-titre, les Parisiennes sont invitées à accoucher avant les Jeux Olympiques pour libérer les lits pendant l'événement, ou cet autre reportage repris de France 24 avec son logo et expliquant que le site de location Airbnb ne remboursera aucune réservation pendant la compétition en cas d'annulation. Là encore, un mensonge, une stratégie de désinformation selon David Collomb, avec un objectif final bien identifié.
De fragiliser l'image de notre pays et de ses dirigeants dans le monde. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques représentent une occasion unique en diffusant des narratifs remettant en cause la capacité de notre pays à mener à bien ce grand événement.
Des opérations sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent à d'autres comme les Étoiles de David dans le 14e arrondissement de Paris en octobre dernier. Et cette crainte pour le renseignement que l'accumulation de ces fausses informations touche les anti-JO en France, des contestataires prêts à perturber le bon déroulé de l'événement.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Et puis c'est un fils qui rend un hommage vibrant à sa légende de père.
Au-delà de nos différences.
Vous avez sûrement reconnu les voix mêlées de David Hallyday et de Johnny Hallyday. David Hallyday qui a dévoilé ce clip hier de 100%, hein, une musique qui reprend d'ailleurs et qui raconte les relations entre ce père et ce fils. À l'occasion aussi pour annoncer ce futur album Requiem pour un fou où David Hallyday reprendra les chansons de son père. Il y aura aussi une tournée qui démarrera à l'automne.
Bah dis donc, vous avez l'air d'apprécier.
J'adore.
Ah bah alors soyez là au rendez-vous parce que David Hallyday sera l'invité de Culture Média demain. Entre 9h30 et 11h sur Europe. Hein.
Je serai à l'heure.
Allez, tous à vos agendas. Merci beaucoup, Victor Pourchet. C'était votre journal. À suivre dans un instant sur Europe 1, l'édito international. On va parler de l'Allemagne, Berlin, nid d'espions. Rien ne va plus pour l'AfD, le grand parti de la droite populiste allemande, qui croule sous les scandales d'ingérence au profit de la Russie et de la Chine. Vincent Hervouet va nous raconter dans un instant.
Il est 7h39. Très bon début de journée avec Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À tout à l'heure sur Europe 1.
Vous êtes à la tête d'une TPE ou d'une PME. Votre entreprise a un impact positif sur l'environnement, sur votre territoire ou sur la qualité de vie de vos salariés. Candidatez à la 4e édition des trophées Generali PME Enterprise et devenez l'une des PME lauréates. Rendez-vous sur generali.fr/PME durable et c'est avec Europe 1.
Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
Avec But, on peut faire la cuisine encore plus facilement. C'est quoi le secret ?
En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte et des offres de financement incroyables.
Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Carrefour. Quand vous me dites « La 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88 € seulement au lieu de 18,40 €. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour, soit 1,84 € le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour débuter votre journée. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, votre édito politique, on va parler du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à la Sorbonne. Le deuxième pour lui, le second pour lui en 7 ans. Tiens, justement, quel bilan on peut tirer du premier discours de la Sorbonne, celui de 2017? Nous verrons cela avec Vincent Trémollet de Villers. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, avec la sortie de la semaine. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Dimitri, impossible de manquer cet hommage à Françoise Hardy lors du premier festival de l'été. On va partir au printemps de Bourges.
Festival de printemps donc, on verra ça avec vous Marie. Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, il sera question de coiffure et de Marcel Proust.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous.
Tu as l'impression qu'il se moque de moi quand il me dit bonjour.
Non, pas du tout. Hein bonjour, j'ai l'impression de se rencontrer.
Oui, oui, bah c'est le cas. Vous revenez, Vincent, ce matin sur le scandale qui ébranle la droite ultra en Allemagne, la tête de liste de l'AfD aux élections européennes est accusée de corruption. L'un de ses assistants, lui, est convaincu d'espionnage au profit de la Chine.
Oui, alors l'intitulé de l'enquête du parquet de Dresde, existe-t-il un soupçon de corruption du député Maximilien Krah ? Poser ainsi la question, c'est d'y répondre. S'il n'y avait pas de soupçon, il n'y aurait pas d'enquête. Derrière ce syllogisme, on est peut-être tenté de voir un règlement de compte politique à quelques semaines du scrutin. Après tout, Donald Trump a été soupçonné pendant tout son mandat d'avoir été stipendié par les Russes. C'est à peine si le KGB n'avait pas bourré les urnes. Les médias spéculaient sur les contacts entretenus par le milliardaire et son entourage à Moscou. Les rumeurs salaces ont couru pendant 4 ans. Avant que le FBI boucle l'enquête en avouant n'avoir rien trouvé.
Effectivement, ça devrait nous rendre méfiants. Hein.
Mais pour son malheur, Maximilien Krah a un assistant parlementaire d'origine chinoise qui dort derrière les barreaux. Selon les services de contre-espionnage allemand, il surveillait à Berlin les dissidents chinois et à Bruxelles, sous couvert d'un lobbying discret, il rassemblait des infos sensibles transmises à son agent traitant au sein du ministère de la Sécurité de l'État chinois. Ainsi assisté, le député Maximilien Krah aurait eu intérêt à faire attention où il mettait les pieds. Ce n'est visiblement pas le genre de champagne Max, il n'est pas trop regardant sur ses fréquentations, et il est rentré de Chine, farouche partisan de Huawei pour la 5G. Il aurait aussi touché de l'argent russe. Ça, c'est le FBI qui l'a fait savoir.
Alors, il dément, hein, Maximilien Krah, mais il est trop tard pour le remplacer à la tête de liste de l'AfD qui a déjà perdu 5 points dans les sondages.
Olaf Scholz s'en réjouit, mais il dit qu'il est très, très préoccupé. Il a raison de le répéter 2 fois, puisque cette semaine, la justice a arrêté d'autres espions qui fournissaient à la marine de guerre chinoise des infos sur les technologies innovantes. Et ces affaires prouvent que le pillage de l'Europe est permanent, massif, systématique. Les services chinois espionnent les entreprises, piquent les brevets, pénètrent les institutions et façonnent un peu, au moins, les opinions publiques. Cette semaine encore, 2 trentenaires ont été inculpés à Londres. Là encore, d'anciens assistants parlementaires qui glanaient les infos sensibles auprès de la secrétaire d'État de la Sécurité et de la Commission des Affaires étrangères.
Mais personne, Vincent, ne sait combien il y a d'espions chinois.
100 000 ou peut-être 200 000 au ministère de la Sécurité d'État. Et il y a tout le reste, hein, les militaires, les diplomates, les universitaires, enrôlés dans une quête permanente de renseignements. À Bruxelles, siège de l'OTAN, de l'Union européenne, d'une kyrielle de multinationales, la police évalue à 250 seulement le nombre d'agents chinois, aux doigts mouillés, avec une main sur les yeux et beaucoup d'optimisme. Mais il y a pire que cette naïveté. Prenez le Royaume-Uni, par exemple, tellement choqué que 2 bons garçons aient écouté aux portes de la Chambre des communes. Les Britanniques feraient mieux de s'interroger sur leur ministre des Affaires étrangères. Quand il dirigeait le gouvernement, David Cameron avait annoncé l'âge d'or avec la Chine, dont le Royaume-Uni serait le meilleur allié en Occident. Il a ouvert les portes du nucléaire et des télécoms aux Chinois, que ses successeurs sont bien en peine de refermer. Après le gouvernement, en guise de pantouflage, il a été catapulté à la vice-présidence d'un fonds d'investissement chinois d'$1 milliard. Il s'est aussi occupé d'un projet chinois à $3 milliards au Sri Lanka. Et cette semaine, eh bien, le Foreign Office a refusé de révéler si le ministre s'était récusé de certains dossiers avec la Chine en raison d'impossibles conflits d'intérêts. Champagne Max, c'est vraiment le bambou qui cache la forêt. Tiens, je vais le répéter, comme fait Olaf Scholz, c'est le bambou qui cache la forêt.
Le très très international édito de Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Signature Europe 1, 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un petit poche. Vous nous parlez du roman de Stéphane Carlier.
Clara lit Proust, c'est le titre qui vient de paraître chez Folio, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy. Cindy Coiffure, c'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née Delage, un beau personnage, Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clips avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire, le salon, oh bah c'est pas un Jacques Dessange ou un Jean-Claude Biguine, hein, c'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib, n'a pas cédé à la tentation d'un jeu de mots avec tif.
Oui, qualitatif, prototif, etc.
Exactement, ça existe aussi avec R, Voltaire, Rocker, on les connaît. Mais enfin, c'est un problème quand même ce nom, Cindy Coiffure, puisque Cindy, c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, je passe là-dessus. Dans ce salon, il y a Nolwenn aussi et Patrick. Et puis Clara, donc Clara, ça va, franchement, elle est jeune, 23 ans, elle est chouette, elle vit avec un chat qui n'aime pas les caresses, et elle est avec JB, pompier beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon. Mais bon, elle est plus trop amoureuse en fait, et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose.
Mais quel rapport avec Proust hein ?
Ça arrive. Un jour, un client oublie un roman dans le salon, un livre de poche, c'est Du côté de chez Swann, le premier tome de À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir. Et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes la téléportent dans son enfance. Elle revoit un tableau familier de chez sa nourrice. Elle continue, elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois. Elle vit maintenant dans la recherche, c'est tout un monde qui s'ouvre et cette lecture va changer sa vie. Mais pour de vrai, comment ? Bah ça, il faut lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, vous avez compris, à son pouvoir, à sa capacité de changer les points de vue sur le monde. Mais pas seulement, les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés. C'est réjouissant.
Clara lit Proust, donc livre...
Stéphane Carlier.
Stéphane Carlier, merci beaucoup. En format poche, merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent, direction Bourges, avec vous Marie Jiquel. La 48e édition du Printemps de Bourges a commencé mardi, elle dure jusqu'à dimanche. On attend 250 000 visiteurs. Vous avez assisté à l'une des premières soirées hier, c'est une création qui s'appelle Message personnel. C'est un hommage à Françoise Hardy.
Oui, alors cet hommage, c'était presque une pause enchanteresse hein, dans ce printemps où on entend les basses tout le temps. Un printemps qui se lançait hier en plus en grande pompe avec des scènes assourdissantes, électro-pop-rock, avec Kyo, le DJ Martin Solveig et Mika, face à un public, vous l'imaginez, déchaîné. Et puis, il y avait ce moment suspendu... En début de soirée, cet hommage à Françoise Hardy orchestré par l'artiste sage de l'ancien groupe Revolver. Une scène à l'ambiance intimiste portée par la nouvelle génération française avec Clara Luciani ou Zao de Sagazan, entre autres. Des artistes presque timides, humbles face au répertoire de Françoise Hardy, à l'aura puissante. Alors cela faisait longtemps que le Printemps de Bourges désirait cet hommage. On va écouter le directeur du festival, Boris Vedel.
Alors Françoise Hardy est très attentive à cette création. Vous savez qu'elle est malade, elle s'en cache pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que l'un des derniers messages qu'elle nous a transmis, c'est « Mettez-y de l'humour ». Voilà, il y a un répertoire, il y a des chansons. Elle prend la parole pour d'autres sujets, plus graves, et qu'elle parle d'humour, je trouve ça assez fascinant.
Mais si tu
vous l'avez compris, des reprises de Françoise Hardy, mais cette sélection ne comprenait pas les chansons les plus connues de Françoise Hardy. Sage a décidé de mettre en avant des titres plus mélancoliques comme La Question, issue de l'album du même titre, hein, qui serait l'album préféré d'ailleurs de Françoise Hardy, et d'autres titres comme Un peu d'eau ou Ma jeunesse fout le camp.
Si je fais une autre...
Au départ, j'avais fait ma sélection de chansons et puis j'ai reçu un mail de Françoise Hardy m'envoyant une liste de 50 morceaux et me disant « Voici pour moi les 50 chansons que personne ne reprend jamais et qui doivent être absolument reprises. » Et il n'y avait pas une seule que j'avais choisie. Et c'était que des chansons toutes plus obscures les unes que les autres. Et beaucoup de chansons qu'elle avait composées et écrites elle-même aussi. Et je pense qu'elle avait envie qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect-là de son art.
Voilà un hommage réussi face à un public très sage, presque hypnotisé. Un hommage touchant et gracieux à l'image de Françoise Hardy.
Un message personnel. personnel, hommage à Françoise Hardy. Et un autre hommage ce soir, toujours à Bourges, hommage à Bob Dylan, cette fois-ci mené par la chanteuse américaine Cat Power. Et le printemps de Bourges, c'est jusqu'à dimanche. Voilà les amis, merci d'être venus nous voir ce matin. Revenez quand vous voulez, dès demain par exemple, très bonne idée. Dans un instant, votre édito politique. Non, bon week-end Vincent. Votre édito politique dans un instant, juste après le journal permanent, signé Victor Porcher sur Europe 1.
Le Moulin Rouge a perdu ses ailes cette nuit. Une partie du célèbre monument parisien s'est effondrée, ne faisant heureusement aucun blessé selon les pompiers. Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues. Pour ou contre imiter le Royaume-Uni avec le Rwanda ? Oui ou non à une loi en France pour expulser plus efficacement les migrants illégaux vers un pays tiers ? Vous dites oui à 67% selon le sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. L'offensive israélienne au sud du Liban, 40 positions du Hezbollah libanais allié du Hamas palestinien ont été pilonnées par l'aviation et l'artillerie israélienne, mais aucun soldat de Tsahal n'a franchi la frontière. Et puis en football, le titre de Ligue 1 pour Paris, c'est pas pour tout de suite. Le PSG a bien gagné hier soir 4-1 contre Lorient, mais la victoire du deuxième Monaco contre Lille 1-0 retarde encore un peu l'échéance.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, aujourd'hui à la Sorbonne, Emmanuel Macron va prononcer un discours sur l'Europe 7 ans après être intervenu au même endroit. Alors la chose est présentée comme un événement de la campagne des européennes. Est-ce le cas ?
On s'était dit rendez-vous dans 7 ans, Dimitri, même lieu, même thème, même tribune, mais comme dit la chanson, le temps passe et il efface beaucoup de choses, et en premier lieu nos illusions. En 2017, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron était un discours d'engagement. Et le problème des engagements, quand ils sont écrits, c'est qu'on peut les relire. C'est ce que j'ai fait. Et ça donne une impression bizarre, comme si on se trouvait après une fête devant une guirlande dont la plupart des ampoules sont désormais éteintes. Certes, dans ce texte, il y a déjà les tours de bonneteau sémantique, souveraineté européenne, défense commune, toutes ces formules pour ne pas dire tout simplement le mot qui fâche, c'est-à-dire fédéralisme. Mais pour le reste, c'est un formidable inventaire de promesses non tenues. Sur la maîtrise de l'immigration, Emmanuel Macron disait que la France montrerait l'exemple à l'Europe. On connaît la suite. Sur la transition écologique, le président l'annonce comme un modèle enchanteur. C'est devenu un carcan infernal dont même Ursula von der Leyen essaye de se libérer. Et puis dans ce discours, on trouve des phrases terribles pour ceux qui nous gouvernent. On y lit par exemple « La politique agricole ne doit pas être une politique de suradministration ». Ce n'est pas au salon de l'agriculture cette année, hein, mais c'est en 2017. Ou encore, dit le président, je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen. La France a été évacuée d'Afrique depuis et le projet européen avec ce continent est au point mort.
Alors, il y a eu aussi quelques avancées européennes, il faut le dire Vincent, depuis 7 ans. Hein.
Oui, quelques accords pour taxer les géants du numérique sans que l'on ait aucune nouvelle du Google européen. On y trouve aussi les prémices de la création d'une dette commune 3 ans avant le Covid, ce que la majorité revendique comme une géniale prémonition du président. Mais on peut aussi y voir l'extension à l'échelle du continent du mal français, c'est-à-dire la dette, avec son corollaire, l'impôt. C'est d'ailleurs ce que défendent les macronistes au Parlement européen. Donner à Bruxelles une compétence fiscale, même à la majorité qualifiée, permettra à l'Europe de prélever de nouveaux impôts.
Mais pensez-vous, Vincent, que le discours du jour, ce discours Sorbonne 2, peut au moins avoir des conséquences électorales ?
J'en doute un peu, même si le président va essayer de réveiller une nostalgie, de ressusciter le temps où il incarnait toutes les espérances. Mais pour rallumer les étoiles de son rêve européen, il faudra qu'il use de toutes les ressources de l'éloquence. Depuis quelques jours, ses conseillers, une partie du commentariat, accordent un pouvoir presque magique à ce rendez-vous de la Sorbonne. Pourtant, ce discours peut aussi être un amplificateur de l'antimacronisme dont profite aujourd'hui Jordan Bardella, d'autant que dans l'opinion, les agences de notation ont dégradé la note du président depuis déjà bien longtemps. C'est pour cela que ce discours ne devrait pas bouleverser en profondeur les équilibres électoraux. On peut toutefois trouver deux effets immédiats à ce grand oral. Le premier, c'est qu'Emmanuel Macron va essayer de faire mousser son projet européen pour faire oublier la menace que les agences de notation font peser sur le pays. Je vous rappelle que demain vendredi, nous attendons la décision de Fitch et de Moody's. Le second effet, et là il faut s'en réjouir, à 6 semaines du scrutin, nous allons enfin parler d'Europe. Pas de Gaza, pas de la dissolution de l'Assemblée, pas de Chamberlain ou d'Ayana Kamoura, mais d'une institution certes lointaine, complexe, hostile parfois, mais qui décide en partie de notre avenir et qui est l'objet de cette élection. Il reste encore un gros mois de campagne et je voudrais finir, si vous le voulez bien, par une supplique aux candidats. Parlez-nous d'Europe dites-nous des choses intéressantes.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trébolet-Villers. À la une du Figaro ce matin, les élections européennes justement, et Emmanuel Macron qui entre en campagne pour sauver son camp. Merci beaucoup Vincent. À demain.
Il est 7h56, vous écoutez Europe 1 et nous sommes le jeudi 25 avril.
Et une pensée pour Anne ce matin, et nous fêtons ce jour Saint-Marc qui ne fut pas disciple de Jésus. En revanche, il est l'un des premiers évangélistes et il fut aussi le secrétaire de Saint-Pierre qu'il appelait mon fils. Les mémoires de Saint-Pierre rédigées par Marc figurent dans la Bible. C'est l'évangile selon Saint-Marc à l'intention des Romains. Bon réveil avec Europe 1. Vous retrouvez à partir de 8h30 Gaspard Proust, juste après l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, sera face à Sonia Mabrouk.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, à ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Chez Ixina, à partir de 2990€, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet.
Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans.
En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix.
Ixina, oui à vos rêves.
Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité, plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Burger King.
Quand vous avez un brique-glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous l'avez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, ils les ont à 1,99€.
Les avocats?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de deux avocats est à 1,99€.
Moins de 1€ l'avocat pour le lot de deux. Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est la vocation de Lidl, non?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bientôt 8h, le temps Anissa Dadi, des températures légèrement plus douces en ce milieu de semaine.
Oui, ça fait du bien, on va de nouveau retrouver des valeurs au-dessus des 10 degrés cet après-midi. 10 degrés à Aurillac et à Belfort, 12 à Dijon, Lille et Colmar, 13 degrés pour Biarritz et Saint-Étienne, 14 à